Il ne pensait qu'à la moribonde dont le visage creusait un oreiller dans un lit d'hôpital. Mais il ne savait pas qu'il y pensait. Il roule vers Villaroche quand l'évidence l'atteint. Cette femme-là, j'aurais su l'aimer. Une certitude vaine. Elle n'a demandé qu'à naître. Ça ne veut rien dire. À son père, à sa mère, à Michel et à moi. Mais personne jamais ne le lui a permis. Et moi, comment le lui aurais-je permis? Trop souvent, il s'est reproché « je ne la connais pas ». Ce reproche, encore, était un alibi, une fuite. Elle ne lui demandait pas de la connaître, mais de... quel était son mot? De la créer. Qu'il lui dise avec force « tu es cela ». Et à la fin, elle l'aurait cru. Elle serait devenue cela. Je lui montrerai la vie, que le refus n'est pas une solution, qu'il faut risquer. Je lui montrerai ce qu'elle possède et qu'elle ignore. Je l'ouvrirai. On sait toujours trop tard. Et maintenant, il n'est pas question d'en accuser la mort. Maintenant, je devrais être auprès d'elle. Mais on ne voulait pas de lui. La mort. Au volant de sa voiture, sous laquelle crissaient les traverses métalliques de l'entrée du terrain, Jean se répétait avec obstination et désespoir « La mort prouve seulement qu'on ne mérite pas de vivre. » Dans le lit d'hôpital, Françoise semble dormir ou être déjà morte. Il y avait une brume violette où elle se trouvait, attachée et bâillonnée, à la merci des couleurs. Elle eût voulu rejeter le poids qui l'oppressait, les mains qui se posaient sur les siennes. « Là, là, soyez sage !»« Soyez sage, mon enfant !» L'institutrice l'aimait, moins que sa mère, mais beaucoup. Mais en même temps que la voix se faisait douce pour dire « Là, là, soyez sage !» On la tenait attachée dans une chambre violette. Elle jugeait insupportable ce décalage entre le traitement qu'on lui infligeait et la douceur de la voix. Elle était attachée au milieu des personnes et des garçons qui riaient, vêtue d'une blouse violette, d'un affreux violet passé. On lui faisait porter longtemps les mêmes affaires. Et la blouse, trop étroite, la serrait à la poitrine, au ventre. C'était la blouse qui lui donnait l'impression d'être attachée. Elle détestait la couleur violette. Le rouge, le jaune, le vert, le bleu, l'orange, toutes les couleurs fondaient à vue d'œil sous ses doigts. Le toit de la maison est rouge et le ciel est bleu. Les arbres sont verts, le tablier de la fermière, les joues et les mains sont oranges. Et le tronc des arbres lorsqu'on n'a pas de brin. Mais qu'est-ce qui est violet? Rien n'est violet. Dans la boîte de couleurs, le crayon violet demeurait intact. Elle était désolée, quand elle ouvrait la boîte, de retrouver toujours intact ce grand crayon au milieu des autres, tout petit. Était-ce pourquoi on l'avait attaché? Non. Son père avait dit « Si tu n'es pas sage, Françoise, « je vais être obligée de t'attacher. » Il ne l'aurait pas fait, sans doute. Mais maintenant, dans son petit lit, elle se débattait, repensant à cette menace, comme pour échapper au lien, ou pour échapper à d'autres attaches, dont la menace paternelle n'avait été qu'un signe avant-coureur. Contre l'avenir, elle se révolte enfin, l'avenir inconnu qui va, ou plutôt, d'une manière impossible, à réaliser la menace. Attachée à la vie sur un lit de sangle, à la merci d'un homme bleu-violet. Là, soyez sage. Lorsqu'elle dessinait, elle était sage et libre. Les arbres verts, les toits rouges, mais rien n'était violet, jamais. Elle apprenait à dessiner des poules, pour mettre des poules dans ses paysages, des poules sautillantes ou rêveuses, lentes, marchant, comme sur des échasses, entre les parterres de grains, des poules violettes. Les poules sont jaunes, rouges, noires, ou blanches. Elles ne sont pas violettes. Cette couleur des poules, comme la menace du père, portait une autre chose en germe, l'annonce de quoi qui viendrait et qui était venu fausser les vraies couleurs à cause de ce tourment de ne pas égaliser les crayons de la boîte. Alors, dessiner même, ce n'est plus se faire libre, mais se rendre esclave aussi de la couleur violette des poules. Et là, lié en présence de sa faute sous les yeux, il lui faut bien admettre qu'il ne lui reste plus un espoir d'échapper, ou bien un seul. Renoncer à son goût pour les choses droites, égales, semblables entre elles. Accepter tout le reste, et peut-être s'en réjouir. Attachée, elle est libre. Ce bâillon même dans sa bouche, elle ne le refuse plus. Quelque chose est à venir qu'elle ne refuse plus, bien qu'elle ne sache ce que c'est, ou parce qu'elle ne le sait pas. Quelque chose l'effrayait qui ne l'effraie plus. Mais pourquoi elle voudrait vivre? Ce qu'elle veut, c'est vivre. Maintenant, quoi qu'il arrive, elle aimera que le crayon violet ne soit pas semblable aux autres crayons. L'infirmière ôta le thermomètre de la bouche de la malade et dit « 40 degrés 3 dixièmes, une baisse d'un degré depuis hier soir. » Le docteur se pencha au-dessus du lit, puis il se releva étonné. De toute ma carrière, je n'ai jamais vu lutter ainsi. Le type du poste de garde le regarda passer sans en croire ses yeux. Le type éprouva le besoin d'en parler à quelqu'un. « Oh, dis donc, Benoiston, qu'est-ce qui lui arrive ?» Le grand air du terrain pourtant le ranima. Il paraissait presque normal lorsqu'il arriva au hangar. Rob ne s'aperçut de rien. Villamont, lui, s'aperçut de quelque chose, c'était son métier après tout. On attendait Rolla. Pourquoi Benoiston, si tôt, venait-il sur le terrain? Pourquoi ne passait-il pas d'abord prendre les ordres? Encore heureux que Villamont fût là. Depuis quand le pilote décide-t-il de lui-même un vol? Peut-être Benoiston avait-il voulu rendre une visite d'amitié à son avion, sans plus. Villamont résolut de se montrer aimable. « Dites donc, Benoiston, vous savez, vous l'avez baptisé, votre appareil. Eh ben quoi, il n'avait pas de nom? Le singe a entendu que vous l'appeliez le poisson. Ça lui a donné une idée. Le SC-101 va s'appeler le Squall.
Le Squall ? Dit Jean. Villamont s'inquiéta.
Si une nouvelle devait remplir d'orgueil un pilote d'essai, c'était bien celle-là, avoir contribué au baptême de son piège. Mais Benoiston disait le Squall, comme s'il n'avait pas été dans le coup.
Jean essayait de saisir une pensée qui, au cœur même de sa lucidité, lui échappait et qui l'épouvantait peut-être.
Mais pourquoi va-t-elle mourir?
La soudaineté de cette mort en faisait un événement inexplicable que ne pouvait expliquer en tout cas ni la malchance ni la fureur d'un mari. Il n'y avait aucune commune mesure entre le geste d'un dément et la disparition de Françoise.
Quoi donc, mon vieux, ça ne va pas ce matin?
Si, si, dit Jean.
Il réagit. On devait s'attaquer au 1,25. Vous êtes sûr que ça va bien?
dit Villamont. On essaie le nouveau train d'atterrissage et...
Villamont le regarda mieux.
Je ne suis pas certain que vous soyez en état.
Je vais très bien, dit Jean. Ça y était. Il ne dominait plus sa fureur et sa haine en présence de Stipe.
Il en avait marre de s'entendre donner des ordres. Un mâche 10, pas plus.
Ou bien,
et au premier appel, vous redescendrez.
Marre d'être jour après jour aux ordres d'un monsieur qui ne quittait jamais son bureau et qui n'avait jamais manipulé une commande. Marre de n'avoir aucun droit, ici non plus, d'être le petit garçon qu'on morigène et qu'on rabroue, le petit garçon qui, tout de même, chaque jour, risque sa peau.
« Oui, dit Jean, c'est compris. »
Il ajouta, il lui fallait le dire.
« Je regrette, mon vieux. » « Nous n'en sommes pas encore au pilote robot. Vous devriez en prendre votre parti. »
Prêt avant l'appareil, comme d'habitude, il ne dit plus un mot jusqu'au départ. Il s'avouait qu'il n'était pas en forme ce matin. Assez en forme, cependant, pour faire mieux qu'un avion cible. Il glandouillait, mais il ne fouettait pas. Non, il n'avait pas peur. « Il faut risquer !» La destruction brutale, insensée de Françoise, arrachait un masque à son subconscient. Il était pris dans quelque chose dont il ignorait jusqu'au nom, un filet aux mailles si larges que, d'ordinaire, les hommes y vivent sans s'y savoir prisonniers. Il ignorait le but de cette capture et peut-être n'y avait-il pas de but. Isolé dans son cockpit, il connut la dépression, l'abandon caractéristique. Il pensa qu'il ne participerait pas au meeting du Bourget et qu'il ne ferait pas de compte-rendu de ce vol, parce que ce serait le dernier. Il ne se tuerait pas. Rien n'était plus éloigné de son esprit que l'idée de se tuer. Il pensait cela comme il aurait pensé « Pour moi, les femmes finies. Je ne coucherai plus avec une femme, promesse d'ivrogne. Une nuit d'insomnie vaut une bringue. Promesse d'ivrogne qui veut courir sa chance. Si l'on est pris, autant foncer. » Il ne pensait pas aux poissons. Il avait le mâche 125 dans la tête malgré les ordres. Il était calme. Et ses pensées plus cohérentes qu'il ne l'eût espéré 10 minutes plus tôt, mais c'était des pensées qu'un pilote d'essai n'a pas le droit d'avoir. Parfaitement calme, il pensait, leur salle technique, est-ce qu'ils espèrent vraiment, avec leur salle technique, venir à bout de l'inconnu, de l'espace et de la mort, à peu près comme l'homme qui a possédé des centaines de femmes prétendrait savoir ce que c'est que l'amour. De drôles de pensées, mais il restait lucide. Il nota qu'il grimpait beaucoup trop vite lorsque, triomphalement, il proclama « 5,40, 12 000 !» Toute la gomme. La tour commença de grogner. Jean reconnut la voix de Rolla. Rolla était arrivée au mauvais moment.
« Bon, dit Jean, c'est compris. »
Ça suffisait, les conneries. Et pourtant...
Regarde-moi ça, Villamont. Si ton avion robot serait capable de ça, je vais piquer de là-haut tant que ça peut.
Il entendit le rugissement de la tour, puis la voix sèche de Villamont.
Vous ne ferez jamais les 125.
Il atteignait l'altitude fabuleuse de 48 000 pieds. Il décida de monter un peu plus haut.
« Non vraiment? On va voir. »
Si Rolla était seul, peut-être Jean comprendrait-il. Il y avait Villamont à l'écoute, dans la voiture radio. Villamont ne disait rien, mais il parut à Jean entendre un rire moqueur.
« Je les emmerde tous. On va bien voir. » Ce n'y j'ai pas de droit, aucun droit.
Le poisson ne disait rien, lui non plus. Le poisson était d'accord.
Nom de Dieu, Jean ! Maintenant, de toute façon, faut aller jusqu'au bout. L'indiscipline était formelle.
Mâche 125.
Tiens, mon bon. 112, 113. Tassé sur son siège éjectable, transformé en boule humaine, Jean, rageur, forcené, poussait sur les commandes.
On va le voir, s'il n'y a pas moyen, si l'on est obligé de s'en remettre toujours aux ordres de quelqu'un d'autre ou du destin. On va le voir, si je n'ai plus de droit, ne serait-ce que le droit de me casser la gueule.
Dans le casque, son crâne ruisselait. La tour, le terrain, les hommes, le monde tout entier n'était plus qu'une sorte de murmure indistinct, un grésillement tranquille. Il tombait dans le silence comme une pierre. Et tout à coup, il n'eut plus besoin d'appuyer. Le poisson partait de lui-même, le nez lourd.
« Qu'est-ce que c'est que ça ?» dit Jean.
Le grésillement s'intensifia, il devint craquement, cacophonie, vacarme, mais ces bruits insensés, Jean était seul à les entendre. Tout simplement, l'antenne radio s'était rompue. Des mains invisibles secouaient son siège de droite et de gauche. Agité par les vibrations, le manche martelait ses genoux. Le flotteur, cette crainte de tous les pilotes, se répercutait du corps de l'avion dans son corps à lui. Le manche braqué, rejeté en arrière, toutes les commandes en arrière, il regardait impuissant l'aiguille du mâche-mètre accélérer sa ronde. 126, 128. Est-ce que je saute ? Il était trop tard pour sauter.
Nous allons entrer dans les couches, dense comme du ciment. Le poisson va se casser en deux.
10 secondes et les mains inutiles. L'éternité. Une pensée pour Michou, une pour la mort à peine, une pour l'échec plutôt, le vide de l'échec, l'acceptation du vide. Et l'amour prend toute la place. L'amour qui, simplement, ne finit pas sans être accompli. Cette simplicité de l'amour enchante. On ne le met pas en doute. On ne peut que s'étonner de l'avoir ignoré.
Et s'émerveiller. Le long chemin qu'il restait à parcourir, qu'une seconde l'achève.
Jean ne vit pas l'aiguille approcher les 1.4. Les atteindre, mais, lâchant les commandes, ses mains saisirent les poignets, placés sur les accoudoirs du siège, ses pieds se posèrent sur leurs appuis, il ne pensait plus à la mort, il refusait la mort, celle de Françoise, la sienne, bien que leur amour s'en nourrit, puisqu'à l'amour une vie ne suffit pas, puisqu'il y faut un destin. Dans un éblouissement qui lui parut s'irradier de lui-même, comme s'il était par erreur catapulté au milieu du soleil, tout éclata autour de lui, en lui, plongé, seul et nu dans l'espace. Les hommes de la tour, impuissants, regardaient. Le radio sursauta pourtant, quand Rolla commença de rire.
« Le siège fonctionne. Il va s'en tirer, les gars. Je vous dis qu'il s'en sort. »